Shavuot 2010.
Bien, alors, ce soir, nous fêtons Shavuot, la Pentecôte, la fête des semaines, qui termine le décompte de l'Omer. C'est donc la fin d'un temps que le Seigneur a imparti. C'est aussi un festival, un jour de fête, où on allait au tabernacle, puis au temple. C'est donc une grande fête pour les chrétiens. La Pentecôte, c'est aussi le jour où le Seigneur est descendu vers son peuple, où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les autres disciples, ils étaient environ 120, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en différentes langues, et ça a beaucoup étonné le peuple qui était à Jérusalem ce jour-là. Donc c'est un jour très particulier. C'est un jour spécial, nous allons nous consacrer maintenant à son étude, et dans l'esprit, je vais donc continuer dans la foulée de ce qu'on avait étudié précédemment, c'est-à-dire le décompte de l'Homère, mettre ça en relation avec l'épouse mystique de Christ, avec son Église, son peuple, Israël, avec le peuple des nations, et on va voir quel est le message que le Seigneur veut nous délivrer. Pour ce faire, j'ai choisi l'histoire de Ruth, donc on va étudier tout le livre de Ruth. Alors, je vous rassure, hein, il fait 4 chapitres. Mais il est riche d'enseignements. C'est un symbole en lui-même qui contient énormément de choses qu'on va détailler, qu'on va voir de plus près et qu'on va mettre en relation avec ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui. En fait, j'ai l'intime conviction que ce livre a été écrit dans un but d'enseignement. C'est une projection sur l'Église tout entière, au travers des âges. On a pris une femme, on a pris son histoire, mais c'est une histoire qui est exceptionnelle, avec un cheminement de vie tout à fait particulier, et qui se recoupe parfaitement avec l'Église de Christ, avec l'épouse du Machia, avec le peuple de Yeshua. Et nous sommes ce peuple. Donc, on peut s'identifier à quelque part avec l'histoire de Ruth, et c'est extrêmement important pour nous de lire entre les lignes et de voir quel est le message que le Seigneur veut nous délivrer. Alors qu'est-ce que c'est Shavuot? Si on étudie le Lévitique, qui est le livre de la loi par excellence, on se rend compte qu'à partir du chapitre 23, Moïse énumère ce qu'il faut faire pendant les fêtes de l'Éternel. Nous avons là un certain nombre d'ordonnances qui s'appliquent à chaque fête que le Seigneur a instaurée. Et on détaille dans ces ordonnances, le processus qui est à suivre, les sacrifices qui sont à faire, les rituels qui sont à observer, et ça concerne Pécha, Shavuot, le décompte de l'Homère, toutes ces choses-là, toutes les grandes fêtes sont énumérées à partir du chapitre 23 jusqu'au chapitre 24. Nous avons donc là l'ensemble de toutes les fêtes de l'Éternel, fêtes des trompettes, des cabanes, et dans son contenu, on se rend compte que le Seigneur détaille très bien les choses, quelle devait être la posture du peuple, quels étaient les sacrifices à respecter, quelles étaient les ordonnances à respecter, quelle devait être l'attitude et les gestes à effectuer par les prêtres. Tout ça, c'est détaillé dans la loi, dans le Lévitique. Maintenant, si on va au chapitre 23, verset 15, et qu'on lit ce qui concerne Shavuot, la Pentecôte, on peut lire ceci. Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du repos, Shabbat, comprenez par la Pécha, où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos, et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habiterez 2 pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kilos de fleurs de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Avec le pain, vous offrirez aussi 7 agneaux sans défaut dans leur première année, un jeune taureau et 2 béliers, qui me seront offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce sera un sacrifice consumé par le feu. À l'odeur apaisante pour l'Éternel, vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le prêtre fera avec le pain des premières récoltes le geste de présentation devant l'Éternel. Ils me seront consacrés avec les deux agneaux et reviendront au prêtre. En ce même jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations, dans tous les lieux où vous habiterez. Voilà ce qu'on peut lire sur la Pentecôte. Mais dans son contenu, ça reflète un petit peu ce qu'on peut lire pour toutes les autres fêtes, chacune ayant sa spécificité. Mais, curieusement, concernant la fête de la Pentecôte, il y a là un verset qui ressort comme un anachronisme et qui, a priori, n'a strictement rien à faire au milieu des recommandations qui concernent les fêtes. Ce verset, c'est le verset 22, et qui est la suite de ce qu'on doit observer pour la Pentecôte, il est coincé entre les recommandations de ce qu'on doit faire pour la Pentecôte et la fête suivante, qui est la fête des trompettes. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord, et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester de votre moisson. Vous laisserez tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vraiment curieux. Donc un passage qui est une recommandation qui n'a pas trait à la fête, mais qui est une recommandation d'ordre général. C'est un ordre, une loi de l'Éternel concernant les pauvres. Et pourtant, il met ça avec la fête des prémices, avec la fête des semaines, avec la Pentecôte. Au milieu de ça, nous avons donc là un petit passage qui concerne le glanage. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur de copiste? Est-ce que c'est Moïse qui, en recopiant ou en discutant avec le Seigneur, s'est mélangé un peu les pinceaux? Ah ben non. C'est tout à fait volontaire. Nous avons donc là une relation forte entre le glanage, la Pentecôte, qui représente aussi la fin des moissons, puisque la moisson des orges se termine, on commence celle du froment, et grosso modo on peut dire que c'est les céréales qui s'achèvent, la récolte des céréales est finie, et on va rentrer maintenant dans un temps nouveau qui est celui des fruits, les premiers fruits des arbres, et donc le Seigneur intercale là-dedans un petit passage pour nous rendre attentifs, et dire attention. Le temps des moissons s'achève, tout est terminé, mais n'oubliez pas, les pauvres, n'oubliez pas de laisser ce qui tombera de vos gerbes, les épis qui sont épars, ou même vous laisserez dans les coins de vos champs quelques épis pour les pauvres. Et en fait, le Seigneur va bâtir là-dessus un enseignement extrêmement important et très fort. Et pour comprendre quelle est la nature de cet enseignement et où le Seigneur veut nous porter, nous allons lire l'histoire de Ruth. Et l'histoire de Ruth, en fait, va s'appuyer sur ce passage-là. Si ça, ça n'existait pas, si ce passage n'existait pas, Ruth n'existerait pas. L'histoire de Ruth n'existera pas. Tout ce qui suit derrière n'existera pas. On va voir que toute petite chose, qui a priori n'a pas sa place à cet endroit-là, toute l'histoire biblique qui va s'en trouver diverse. Là maintenant, l'histoire de Ruth, c'est une histoire qui se passe du temps des juges. Nous sommes là donc dans une période qui se situe après la conquête du pays et le premier roi. Et pendant ce temps-là, chaque ville était administrée par des sages qui étaient les juges en Israël. Et c'est ces gens-là qui interprétaient la loi, c'est ces gens-là qui veillaient à son application. Et donc, pendant la période des juges, une histoire merveilleuse va se dérouler. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une femme, ou plutôt de plusieurs femmes. Et on va donc étudier ça maintenant. Chapitre 1 de Ruth. À l'époque où les juges gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémi et ses deux fils Maron et Kilion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Alors là, la première des choses qui ressort de ce texte, c'est déjà l'importance des noms. Dans le livre de Ruth, les noms sont un petit peu le pivot de l'histoire. Tout tourne autour de ça, et c'est extrêmement important de connaître le sens des noms. Donc on va avoir un certain nombre de noms qui vont apparaître dans ce livre, et je vais vous en donner la traduction. Parce que si on ne connaît pas le sens des noms, si on ne sait pas ce qu'ils signifient, on va passer à côté de beaucoup de choses. Et le message est quand même assez marqué par la signification de ces noms. Élimélec, le mari de Noémie, ça veut dire « mon Dieu est roi ». Noémie peut se traduire par « ma gracieuse, ma douce ». Mara, c'est « mon amertume ». Malon, maladie. Kilion, fragilité. Orpa, qui va apparaître plus tard, signifie la nuque. Ruth, traduire par « mon amie » ou « rafraîchissante ». Boaz, qui viendra beaucoup plus tard, ça veut dire « la force est en lui ». Et Obed, tout à la fin, signifie « serviteur ». Donc là, première des choses, une famine frappe le pays. Il n'y a plus rien à manger, plus rien ne pousse. Il n'y a plus rien ne pousse où ? À Bethléem. Qu'est-ce que veut dire Bethléem ? Maintenant, vous le savez très bien, c'est la maison du pain. Dans la maison du pain, il n'y a plus de nourriture. On n'arrive plus à se sustenter. On meurt de faim à Bethléem. Donc, malédiction frappe le pays et Noémie et son mari, Élimélec, décident de partir. N'ayant plus de ressources, n'ayant plus rien, ils se disent, on va mourir de faim, on ne peut plus rester là, on va donc partir dans le pays de Moab. Et ils vendent tout ce qu'ils possèdent. Chaque Israélite avait droit à une portion de terre, ils vendent leur portion de terre, prennent cet argent, et ils partent dans un autre pays, qui est un pays où il n'y a pas la famine, et ils se disent, on va s'installer là-bas, et puis les choses vont bien se passer pour nous. Ce pays où ils vont, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est le pays de Moab. Alors, attention, Moab, c'est quoi dans la Bible? C'est une nation très particulière, parce que c'est une des rares nations sur lesquelles repose une malédiction. Malédiction qui a été prononcée par l'Éternel, parce que quand Israël, pour le peuple juif, a quitté l'Égypte, ils en ont pérégriné pendant 40 ans dans le désert, et puis, à la fin de leur pérégrination, ben, le Seigneur a dit, bon ben maintenant, cette génération est passée, vous allez pouvoir rentrer dans le pays. Mais avant de rentrer dans le pays, à un moment donné, ils ont dû traverser à travers une région, c'était la région des Moabites. Et les Moabites, ben, ils n'ont pas voulu les accueillir, ils avaient peur d'eux, quand ils ont vu cette multitude arriver, ils ont dit, oulala, ils vont envahir le pays, ils ne leur ont pas donné à manger, ils ne leur ont pas donné à boire, ils leur ont dit, traversez, dégagez, vite fait, bien fait, quoi. Et pire que ça encore, ils ont voulu attirer la malédiction sur eux tellement ils en avaient peur. Alors, ce pays, c'est le résultat d'un inceste. Parce qu'on se rappelle qu'Abraham avait un neveu, que ce neveu, c'était Lot, qui s'était installé à Sodome, et que l'Éternel a détruit la ville. Et en quittant la ville, avec sa femme et ses filles, sa femme s'est retournée pour voir la ville détruite, et puis elle a succombé au fait de s'être retournée parce que l'Éternel avait interdit. Donc il ne restait plus que Lot et ses deux filles, et les filles se sont désolées parce qu'elle dit, mais on se retrouve maintenant tout seul, il n'y a plus que notre père, et comment on va faire pour avoir une postérité, il n'y a plus d'hommes dans le pays. Et alors, par un subterfuge, ils ont fait boire le père, ils ont couché avec lui, et de là est née une descendance, et de la fille aînée, et ben, il est sorti la nation des Moabites. Mais ce n'était pas ça qui fait que ce pays est touché par la malédiction. La malédiction, le terme, le contenu, on peut lire en Deutéronome 23.3, on peut y lire ça, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. C'est-à-dire tout le temps, jamais, en aucun cas, ces gens-là ne rentreront dans la postérité du peuple d'Israël. Je ne veux pas de Moabite dans le pays. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi, fils d'argent, Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Alors encore, c'est une histoire très particulière. C'est le roi des Moabs, quand il a vu les Juifs arriver, il s'est dit, mais je ne peux rien faire. Matériellement, je ne peux rien faire, ils sont trop forts. Alors il s'est dit, je vais faire venir un prophète qui était très connu, qui s'appelait Balaam. Il a dit, cet homme est connu pour le fait que tout ce qui bénit est béni, tout ce qui maudit est maudit. Et donc, il fait venir ce prophète, L'Éternel lui a dit, ne va pas, il a insisté, il est quand même venu. Il a donc dit au roi de Moab, ok, je vais venir, mais je dirai uniquement ce que l'Éternel me dit de dire. Et donc, le roi accepte, en se disant, ben, il va les maudire. En fait, non. Balaam monte sur les collines environnantes, d'où on pouvait voir le peuple, et ce qu'il fait, il parle au nom d'Éternel, il bénit ce peuple. Alors, ça rend le roi fou. Voilà, il s'appelait. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je te fais venir pour que tu les maudisses, et puis toi tu les bénis. Il me dit, oui, ben, je t'avais bien prévenu. Je dirais ce que l'Éternel me dit de dire. Il est consterné. Il dit, bon, ben, retourne, quoi. Puis, par la suite, on apprend que, en fait, Balaam me donnait une astuce. Il dit, écoute, si tu veux t'en débarrasser, c'est simple. Tu te débrouilles pour que les femmes de ton pays couchent avec les fils d'Israël. Ça va irriter l'Éternel, et l'Éternel va se retourner contre Israël. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Pendant un certain temps, les Juifs sont restés dans le pays de Moab. Il devait se passer ce qui se passait. Ils ont été séduits par les Moabites, les filles de Moab, qui les ont entraînés vers le dieu local qui était Baal-Péor, et une malédiction s'est abattue sur le pays, et 24 000 Juifs sont morts suite à ça. D'où la colère de l'Éternel qui n'a jamais oublié ce que Balaam a fait et ce que les Moabites ont fait. On continue. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Voilà l'ordre de l'Éternel. Pas de contact avec les Moabites. En aucun cas, vous les faites rentrer chez vous. Ils n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Rien à voir, je veux rien savoir de ces gens-là. Ils sont maudits. Et en pire que ça, si un jour t'en trouves un et que tu ailles traîner dans ton pays, tu n'auras aucun souci, ni de sa prospérité, ni de son bien-être. Je vous rappelle, je saute vite en nombre 25, qui raconte l'histoire, hein, je résume. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. 24 000 y moururent de la plaie que l'Éternel y a envoyée. Donc voilà, c'est le texte exact. Donc, autant vous dire qu'en Israël, l'image que pouvait donner Moab et ses habitants, c'était plutôt une très mauvaise image. Et encore, c'est un euphémisme. C'est pire que ça. Ils étaient considérés comme des pestiférés. Ils en avaient vraiment peur. Pas peur des Moabites, mais peur de la réaction du Seigneur. Parce que là, en l'occurrence, le Seigneur a agi avec une extrême violence. Il aurait bien fait comprendre que s'ils ont des contacts avec eux, qu'il ne leur pardonnerait pas. D'ailleurs, beaucoup plus tard, quand on lit les livres d'Esdras et de Néhémie, quand les Juifs sont revenus de captivité et qu'ils ont eu des contacts avec les filles de Moab, ça nous bombardait là avec le chef des prêtres qui leur a bien recommandé de les renvoyer chez elles parce que si elles restaient avec ces femmes-là, de nouveau les mêmes problèmes allaient se présenter et l'Éternel allait de nouveau s'irriter contre eux. Donc ils ont dû chasser ces femmes-là. Donc vraiment, c'est une histoire qui est très longue, qui passe des siècles et qui ne s'est jamais amélioré. Et vraiment, il y avait une crainte de l'Éternel vis-à-vis de la réaction que le Seigneur pouvait avoir si quelqu'un entrait en contact avec les Moabites. Et ça, naturellement, c'était marqué comme au fer rouge dans la pensée de chaque Israélite. Il faut bien, bien, bien s'imprégner de ça pour comprendre la suite de l'histoire. Et donc, Élimélec prend sa femme, vend tout, et part où ? Dans le pays que le Seigneur a interdit aux Juifs, on leur dit surtout et en aucun cas n'ayez de contact avec ces gens-là. Donc, Élimélec et sa femme, ses fils, parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Jusqu'ils font, ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa, Nuc, et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis, Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Donc là, on se rend compte que la malédiction de l'Éternel ne s'est pas éteinte, que ces gens, là-bas, ils ont fui la famine, mais pour finalement se retrouver sous l'ire du Seigneur face à sa malédiction. Et tous les hommes meurent. Il ne reste donc plus que Noémie et ses deux belles filles. Pour Noémie, les choses sont claires. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles filles pour rentrer au pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles filles, « Allez, entrez chacune dans la famille de votre mère, et que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même, qui vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi ? Je ne peux plus avoir de fils qui pourrait vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants. Je me donnerai un mari cette nuit même. » Et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Pour elle, c'était clair. L'Éternel est intervenu contre elle. C'est pas le fait du hasard. Alors elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Elle a regardé au terrestre. Elle a dit, à Bethléem, j'ai rien à manger. En Moab, j'ai à manger. Allons là où il y a à manger. Elle ne s'est pas appuyée sur la parole de l'Éternel. Et donc, l'Éternel, qui lui, obéit à ses propres commandements, qui suit ses propres règles, qui ne va pas à l'encontre de ses propres paroles, la malédiction s'est descendue sur les mâles de la famille et les a exterminés. Et elle s'en rend bien compte. Elle se rend bien compte que c'est l'Éternel qui a intervenu contre elle. Alors, les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Orpa, ça veut dire nuque, ça veut aussi dire, pour traduire ça un peu, la nuqueuse, celle qui présente sa nuque, celle qui tourne le dos, celle qui s'éloigne lorsqu'on la regarde avec ce qu'on voit, on voit son dos, on voit sa nuque. C'est pour ça qu'on lui donne ce nom-là. Les noms qui sont là-dedans, c'est des noms qui sont choisis à dessein. Je pense que c'est une histoire qui a dû être écrite longtemps après que ce soit produite. On dit même que c'est Samuel qui l'aurait faite, mais bon, on n'est pas sûr. Il y a des noms qui sont restés, des noms dont on est sûr, hein. On est sûr du nom de Ruth, mais par contre, pour les autres, éliminer ça aussi, pour les fils, pour Orpa, c'est ce qu'ils ont fait qui leur vaut les noms qu'on leur donne. Hein. Le maladif, maladie et fragilité. Malon, Kilion, Orpa. C'est le caractéristique des personnes. Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, « Regarde ta belle-sœur, elle est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi. » Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Donc là, il y a déjà une déclaration de foi. La Moabite ne se confie plus dans son dieu d'origine, Baal-Péor, mais le fait d'avoir vécu dans une famille israélite, elle a adopté le dieu de son mari, le dieu de son beau-père, et elle ne parle plus désormais au nom du dieu des Moabites, mais au nom du dieu de sa famille. Que l'Éternel soit sévère contre moi si je fais autre chose. L'invoque le nom du Seigneur. Donc déjà, par rapport à ça, il y a une césure, il y a une séparation qui s'est faite entre l'autre belle-fille et elle, parce que l'autre belle-fille retourne de nouveau vers les siens et vers son dieu, alors que pour Ruth, elle fait une déclaration de fidélité. Elle est vraiment très attachée à sa belle-mère, très attachée à celle qui était la mère de son mari, mais aussi à son Dieu. Ruth, ici, telle qu'on l'a dépeint, c'est le symbole de la femme fidèle. Fidèle après la mort de son mari, fidèle dans la détresse, fidèle dans sa foi. Là, elle avait le choix. Rien ne la contraignait. Plus aucune obligation, elle était totalement libre. Et pourtant, elle fait ce choix de suivre Noémie. Mais en plus, elle fait le choix d'invoquer le nom de l'Éternel. Et ça, ça va faire toute la différence. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Et elles s'en allèrent, toutes deux ensemble, jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Donc on peut penser que c'était des gens connus. C'était pas une famille discrète, mais la famille d'Élimélec devait donc être une famille importante dans la ville de Bethléem. Et le fait de voir Noémie revenir, ça surprit tout le monde. Et ça mit toute la ville de Bethléem sans dessus-dessous, parce qu'ils sont tous dit, ça y est, Noémie est revenue. Elle est de nouveau là. Puis naturellement, elle a dû raconter tout ce qui s'est passé. Et ça a dû beaucoup émouvoir le peuple qui était là-bas. Chacun a dû penser en lui-même, ben, faut pas s'étonner. L'Éternel les a prévenus, hein. Ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est marqué dans la loi, hein. C'est, le Seigneur a bien dit, hein, qu'on ne devait pas avoir de contact avec les Moabites, hein. Tu vas chez les Moabites, et puis tu sais ce qui arrive, hein. 24 000 du temps de Moïse, voilà. Maintenant, c'est reparti, de nouveau, il est allé là-bas, chef de famille est mort, ses fils sont morts, son nom s'est éteint, sa famille a été totalement détruite. La malédiction de l'Éternel a frappé. L'Éternel est vivant, l'Éternel ne change pas. Et là, toute la localité est en émoi, et ils se disent, mais c'est bien toi, Noémie. Demandèrent les femmes de Bethléem, et elle répondit, ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse. Appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Donc là, elle répète de nouveau, implicitement, hein, on comprend que j'ai péché, on a fait ce qui est mal, on est allé contre les ordonnances de l'Éternel, et je suis maintenant affligée, l'Éternel m'a affligée. Je suis parti d'ici comblé, et l'Éternel lui fait revenir les mains vides. Comprenez par là qu'elle va partir riche, hein, parce qu'à l'époque, il y avait la famine, il n'y avait rien, ils ont tout vendu. Elles sont parties avec un peu d'argent, mais elle était riche de deux fils, elle était riche d'un mari, alors il n'y a plus rien. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie, quand l'Éternel s'est prononcé contre moi, que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem. C'était le début de la moisson de l'or. Ça l'inspire quoi? Début de la moisson de l'or, on est à Pâques. Donc là, l'histoire, maintenant, rentre dans la symbolique forte, où on a l'image de l'étrangère qui vient d'un pays maudit, dont le Seigneur interdit toute relation, tout contact, et ils arrivent là, à Pâques. Pâques, qui est le signal de départ, si on veut, de la moisson de l'orge. Et donc là, en même temps que débute la fête de Pâques, on sait que suit le décompte de l'Homère, et puis qu'un processus se met en route, où on avance maintenant progressivement dans le temps, vers Shavuot, vers la Pentecôte, vers la grande fête qui va venir plus tard, celle des prémices, et qui peut aussi être une fois tous les 50 ans, fête du jubilé, la fête de toutes les délivrances et de tous les pardons. Et donc là, on a maintenant une symbolique qui se superpose, Noémie qui revient avec l'étrangère, la maudite, et ils arrivent à Pâques, c'est pas marqué, hein, mais on peut se l'imaginer parce que c'est parfaitement en phase avec tout le reste. On se rappelle que Pâques, c'est la sortie du pays d'Égypte, sortir des nations, sortir des idoles, sortir des dieux étrangers, pour aller dans le pays promis, pour aller rejoindre le Seigneur. Et donc là, on a ces symboles forts, ces images qui se superposent. Là, c'est plus un peuple, mais là, c'est des femmes, dont une femme, une Moabite, une étrangère, elle représente en elle-même les nations et les dieux étrangers. Et cette femme, elle arrive. C'est un petit peu comme si l'Égypte revenait à quelque part en Israël. Chapitre 2. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme riche et puissant de la famille d'Élimélec, nommé Boaz. On rappelle Boaz, le puissant, le fort, donc ça devait vraiment être quelqu'un d'important, et en tout cas, une chose est sûre, quelqu'un de très respecté avec lui. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Noémie lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Alors là maintenant, il va falloir expliquer certaines choses. Quand un étranger arrivait dans le pays, il avait un statut. On lui donnait un statut. Donc là déjà, le statut de Ruth, a priori, ne devait pas être des plus reluisants. Alors on va voir maintenant ce qui existe dans la loi concernant les étrangers. Alors, on peut définir ça en trois catégories. La première catégorie, en général, on nomme le code de l'alliance. Dans ce code de l'alliance, il y a trois prescriptions. Le terme qu'on utilise pour désigner l'étranger, en général, c'est gère. Il s'agit de l'immigré, qui est devenu résident, ayant dû fuir son pays à cause de la famine, de la guerre et parfois d'un crime. On demande aux Israélites de traiter les étrangers avec humanité en se rappelant qu'ils ont été étrangers en Égypte. En Exode 22-21, l'Éternel dit ceci. « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. » Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Donc là, le gère, c'est l'étranger qu'on accueille avec bienveillance, l'étranger qu'on accepte dans le pays parce que l'Éternel demande qu'on le fasse, en souvenir de ce qu'étaient un jour les Israélites. Ils étaient eux-mêmes des étrangers dans un autre pays. Après, dans le code deutéronomique, on emploie en plus du gère un terme plus générique. Nokri, pour désigner l'étranger. Le Nokri, ce sont des étrangers qui ont un statut inférieur. C'est le voyageur, le commerçant, le visiteur qui appartient à une autre nation, il ne fait que passer. Il ne s'établit pas, il ne reste pas. Il n'est pas soumis à la loi, ni protégé par elle. Les devoirs envers lui se résument quasiment aux coutumes d'hospitalité. Pour le reste, du fait qu'il n'est pas soumis à la loi, on peut lui faire des prêts à intérêt, le contraindre au remboursement, lui vendre de la viande interdite aux Israélites, enfin bon bref. Il n'est pas assimilé au peuple, il n'est pas assimilé à quelqu'un qui doit se soumettre aux lois de l'Éternel, il fait ce qu'il veut, il est libre de partir, il est libre de faire ce qu'il veut dans le pays, c'est un homme sans contrainte. On considère simplement qu'il passe rapidos, et puis il va rester peu de temps, et puis il va partir. Ça c'est le nokri. C'est quelqu'un dont on ne s'attache pas, quelqu'un qu'on considère peu, parce qu'on se dit, bah, il arrive, hein, et puis très rapidement il va repartir, donc on ne cherche pas plus loin. Après, entre ces deux catégories, il y a encore une évolution qui se fait, c'est l'étranger qui devient résident et qui devient un sujet. Celui-là, il est carrément assimilé après au peuple. Il n'est plus considéré comme un étranger. Là, le Seigneur, il dit ça. Quand un immigré résidera avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. L'immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un Israélite d'origine. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même, vous avez été immigré au pays d'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Donc ça veut dire que celui-là qui vient, qui adopte les lois du Seigneur, qui respecte l'Éternel, il est absorbé, il est assimilé par le peuple. Il devient lui-même partie intégrante du peuple d'Israël. Ça, c'est la loi. Donc, il y a l'étranger, quand il arrive, il y a avec qui il faut être correct, et à qui on demande de respecter les lois de l'Éternel. S'il les respecte, avec le temps, il sera absorbé dans le peuple et sera considéré comme faisant partie des Juifs. Ce sera quelqu'un qui appartiendra au peuple d'Israël. Et puis, ça c'est un gère. C'est l'étranger qui rentre dans un processus d'assimilation. Le nokri, lui, il arrive et il repart. Donc ça, c'est les catégories. C'est les évolutions qu'on peut avoir pour les étrangers et comment les définit la loi de l'Éternel. Maintenant, il y a des règles très précises qui concernent aussi le glanage. Donc, il y a des lois que le Seigneur a données pour l'étranger, et il y a des lois qui sont données pour les pauvres, il y a des lois qui sont données pour ce qui reste après les récoltes. Le Seigneur fait ça exprès, afin que personne ne soit délaissé dans le pays, que personne ne meure de faim. La glane, c'est le ramassage à la main des épis qui ont échappé aux moissonneurs. Ces épis doivent être laissés aux pauvres. Si tu fais la moisson dans ton champ et que tu oublies des épis dans le champ, tu ne viendras pas les prendre. Ce sera pour l'émigré, le gère, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans toutes tes actions. On a déjà vu ça. Il en va de même pour les épis situés en bordure de terrain. Tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. Tu l'abandonneras aux pauvres et à l'émigré, le gère. Ça, c'est la loi telle que le Seigneur l'a voulu. Mais les hommes étant ce qu'ils sont, les hommes sont devenus très durs, en général, quand on moissonnait les champs, on était devenu très peu tolérant vis-à-vis des gens qui venaient dans les champs. Et en général, les gens ne pouvaient venir dans un champ que s'ils avaient l'autorisation du propriétaire. C'était même devenu tellement difficile pour les pauvres que certains prophètes on en fait le reproche au peuple en leur disant « Vous êtes vraiment des gens durs de cœur parce que même les quelques épis qui sont par terre, vous refusez aux pauvres. » Et le Seigneur, qui est le seul propriétaire des terrains, qui est le seul propriétaire de la terre d'Israël, lui, il a dit « C'est un droit que je donne aux pauvres, c'est un droit que j'accorde à l'aveugle et à l'orphelin, et vous n'avez pas le droit de vous y opposer. » Mais les obéissants qu'ils sont, ils sont allés à l'encontre de la volonté du Seigneur, et l'usage voulait que si un pauvre allait à quelque part, il ne rentrait pas comme ça directement derrière les moissonneurs pour glaner ce qu'il y avait par terre, les quelques épis qui tombaient, mais il fallait qu'il demande l'autorisation, parce que sinon on le chassait, et puis on le renvoyait. Et a fortiori, si on est un ocré, c'est-à-dire un étranger qui n'est pas reconnu, qui est juste là de passage, passe encore pour la veuve et l'orphelin qu'on connaît, hein, qui est du village, et puis parce qu'on sait, parce que c'est le voisin, parce qu'il fait partie de la famille. Donc pour celui-là, on est encore tolérant, parce qu'on se dit on se fait une bonne œuvre, hein, on est gentil, j'aide mon cousin, j'aide ma voisine. Bon, alors le nocri, je ne sais pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, écoute, tu veux, hein, hors de question qui ramasse ce qu'il y a par terre. Hein. Tout se vend, tout a une valeur marchande. Rien du tout. Tu les reçois. A fortiori, si c'est un Moabit, où le Seigneur dit, ben, en plus, quand tu marches, celui-là, tu ne l'aideras pas et tu ne le soutiendras pas. Hein, s'il y a bien quelqu'un que tu ne dois pas aider, parce que c'est marqué dans la loi, ben, c'est bien le Moabit. Pas de contact avec lui, en plus, tu ne l'aides pas. Celui-là, tu le crèves. Et donc, Ruth, c'était le cas de figure parfait. C'est la loi interdisait qu'on ait contact avec elle, et encore plus par-dessus le marché, qu'on la soutienne. Donc voilà les règles qui existaient en ce temps-là, règles vis-à-vis de l'étranger, et règles qui sont relatives au glanage. Donc, Ruth propose d'aller glaner, et puis sa belle-mère lui dit, bah, oui, vas-y, on verra bien ce qui se passe. Hein. Et puis, Ruth dit là. Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle arriva par hasard, je crois que c'est une des trois fois qu'on trouve le mot hasard dans la Bible. Une fois, c'est la fameuse flèche qui trouve qu'il faut de la cuirasse pour Akab. Hein. Donc on se rend très, très vite compte que le hasard n'existe pas dans la Bible, mais par hasard. Ruth se retrouvait dans un champ appartenant à Boaz, le parent d'Élimélec. Un peu plus tard, Boaz lui-même va Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec nous !» Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse !» Boaz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Le responsable des moissonneurs lui répondit « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant, et s'est à peine reposée un instant. Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonnent, et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. Donc là, à partir de maintenant, elle est sous la protection du propriétaire du champ. Alors si Baudre rajoute que j'ai donné l'ordre qu'on ne t'embête pas, c'est que ce qui devait se passer, les moissonneurs, les hommes, les femmes, à quelque part, devaient rabrouer Ruth en lui disant bah, écoute-toi, la voix vite, ne nous embête pas, tu vas voir, quand le propriétaire du champ va venir, il va te chasser, tu sais que la loi de l'Éternel nous interdit d'avoir des contacts avec toi. Tiens-toi à distance, ne nous approche pas, parce que la malédiction repose sur toi. Et puis donc, vous, normalement, traîner à droite à gauche, essayer de récupérer ce qu'elle pouvait, et puis travailler sans arrêt pour récolter quelques maigres épis de blé. Jusqu'à ce que le propriétaire arrive. Et puis là, les moissonneurs ont dû se dire, ben maintenant ça va barder pour elle. Il va la jeter dehors, puis enfin on va en être débarrassé. Ah ben non, c'est exactement l'inverse qui se passe. Bose arrive, la regarde, les autres lui expliquent ce qui se passe, et puis il se prend de sympathie pour cette personne, et dit, je vois, on m'a raconté l'histoire de Noémie, c'est très triste qui est arrivé, son mari est mort, son beau-père est mort, ils n'ont plus rien, ils sont devenus très pauvres, ils ne possèdent plus rien, ils n'ont plus de terre en Israël, puis il s'est pris de pitié pour elle. Donc on se rend compte que, quelque part, Bose est un homme bon. C'est quelqu'un qui a du cœur. Et il lui dit, non seulement tu pourras glaner, mais en plus par-dessus le marché, pour même boire avec les autres. Il faut quand même se dire qu'en Israël, l'eau, c'était quelque chose d'assez rare. Hein. Et c'était une faveur qu'il lui a accordée. Donc il y a beaucoup, beaucoup de bienveillants. Bose ne regarde pas à la malédiction qui repose sur la personne, mais regarde à son cœur. Il a du cœur et se dit, ce que cette femme a fait, c'est vraiment bien. Parce qu'elle a été fidèle à sa belle-mère, ne l'a pas laissée toute seule. Cette vieille femme qui maintenant vient, retourne en Israël sans rien du tout, ben elle est revenue pour l'aider, elle est revenue pour la servir. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. C'est ça qu'il a regardé, Bose. Cette fidélité, ce dévouement. Et ça, ça lui a beaucoup plu. Et ça l'a touché. Ruth s'inclina jusqu'à terre et se prosterna et lui dit, pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi, moi qui suis qu'une étrangère ? Voilà, on lit ça comme ça. Hein, c'est naturellement les raccourcis rapides qu'on a dans les traductions françaises. Et là, on est en plein dans ce que le Seigneur définit par rapport aux étrangers. Ruth était parfaitement au courant des lois qui étaient en vigueur dans le pays, savait parfaitement ce qu'elle représentait, savait parfaitement la symbolique de sa personne, hein, au milieu du peuple. Elle savait qu'elle était considérée presque comme pestiférée. Et quand elle s'adresse à Bose, elle lui dit, comment ça se fait que toi, le puissant, le reconnu, celui qu'on admire tellement à Bethléem, tu viennes vers moi, une nocrie, c'est-à-dire une moins que rien dans le pays, en plus par-dessus le marché, une moabite, dont on ne doit avoir aucun contact, non seulement on ne doit avoir aucun contact avec lui, en plus par-dessus le marché, on ne doit même pas les aider. Et toi, tu viens vers moi, la nocrie, l'étrangère, la moabite, et tu as de la bienveillance, je comprends pas. En plus, quand tu marches, tu proposes même de l'eau, donc tu m'aides, tu vas contre la loi, contre ta loi. Elle est étonnée, elle ne comprend pas. Cette réaction la surprend tellement qu'elle se prosterne littéralement, parce qu'elle dit c'est incroyable. Elle le remercie de tout son cœur. Bon, je lui répondis, on m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Tu sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. Ruth dit, « Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconforté. Tes paroles me touchent. Moi, ta servante, Bien que je ne sois pas même au rang de tes servantes, elle est parfaitement consciente du rang qui est le sien. Là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est très important. Boaz donne un statut à Ruth. Il la fait passer du statut de nocri, il la fait monter d'un cran en reconnaissant Ruth comme une étrangère qui s'installe à demeure dans le pays. C'est-à-dire, Ruth n'est pas venue dans le pays, par exemple, pour se nourrir parce qu'il y avait une famine ou parce qu'elle avait un problème en moi, mais elle est venue pour assister sa belle-mère. Elle est venue pour rester fidèle à sa belle-mère. Elle restera jusqu'à sa mort. Donc, Boaz reconnaît ça. Il a entendu cette histoire. Noémie a dû lui la raconter. Et donc, à partir de maintenant, il ne la considère plus comme une nocrie, c'est-à-dire une étrangère de passage sur laquelle repose une malédiction, mais il la considère comme la fille de Noémie et il lui donne un statut nouveau, celui de Gère, celui de l'étranger pour lequel on doit avoir de la compassion, celui de l'étranger pour lequel on doit être bienveillant. C'est Boaz qui change son statut. À partir de ce moment-là, Ruth cesse d'être l'étrangère maudite. À partir de ce moment-là, c'est plus Ruth la Moabite, mais c'est Ruth, la femme, pas d'Hébreu, la femme d'un juif, c'est Ruth, la fille de Noémie. Elle rentre dans la collectivité. Elle fait à partir de maintenant partie du peuple. Elle appartient au peuple des Juifs. On considère qu'elle va rester à demeure, on considère qu'elle va rester avec sa mère. À partir de ce moment-là, un statut nouveau lui est accordé. Ça, c'est fondamental. Pourquoi ? À partir de maintenant, la loi de l'Éternel va pouvoir s'appliquer à Ruth. Parce qu'on a bien vu que si on change de statut, le nocri, la loi de l'Éternel, ne le concernait pas. Il fait ce qu'il veut. Il peut adorer un autre Dieu, il peut manger des viandes impures, il fait ce qu'il veut. On s'en fiche, je considère que je suis là, de toute façon. Mais à partir de maintenant, les choses sont différentes. À partir de maintenant, Boaz lui donne un statut nouveau. Il la reconnaît comme une parente, il la reconnaît comme quelqu'un qui va rester à demeure, il donne le statut de gère. Et ceci veut dire qu'à partir de maintenant, toutes les lois qui s'appliquent aux Israélites vont s'appliquer à Ruth. Elle est intégrée dans le peuple, elle reconnaît l'Éternel comme son Dieu, et la parole de l'Éternel va s'appliquer à la vie et à la personne de Ruth. C'est des petites choses. Si elle n'était pas allée dans ce champ, si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, eh ben, tout ceci ne serait pas arrivé. Ce changement de statut n'a été possible que parce qu'elle est allée glaner dans ce champ. Parce qu'elle y est allée pour servir, parce qu'elle est allée, parce qu'elle est restée fidèle à sa belle-mère, eh bien, à partir de maintenant, elle fait partie du peuple d'Israël. À partir de maintenant, la loi de l'Éternel s'applique. Ruth dit, « Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconforté. Bah, » tu parles. Ruth vient de se rendre compte du bon qu'elle vient de faire dans la société. Elle vient d'être reconnue par un des hommes les plus importants, on peut considérer comme un juge dans le pays. Ce juge lui donne un statut nouveau. Eh bien, pour elle, c'est merveilleux. C'est un petit peu comme aujourd'hui, les gens qui viennent en France demander le statut de réfugié politique et qui obtiennent la nationalité française. Vous vous rendez compte? Ils ne peuvent plus être expulsés, ils ont droit à tout, aux allocations familiales, ils ont le droit d'aller travailler. Ben, c'est exactement la même chose. À ce moment-là, à partir du moment où Boaz lui dit de rester dans le champ, de pouvoir aller boire, eh bien, son statut change. C'est comme si elle recevait sa carte d'identité israélienne. Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconforté. Tes paroles me touchent, moi, ta servante, bien que je ne sois pas même au rang de tes servantes. Ben oui, je n'étais qu'une nocrie, puis tu te rends compte maintenant ce que tu viens de me faire comme cadeau. À l'heure du repas, Boaz lui dit, approche-toi, et viens prendre un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. Ben oui, ils mangent tous ensemble. Et puis ils ont un pot commun où ils trempent le pain dedans pour donner un peu de goût et puis de saveur au pain. Et ils leur demandent même de partager le repas. Donc là, c'est vraiment un signe d'intégration. Viens à ma table, je t'accueille à ma table, viens maintenant au milieu des miens. Alors elle s'assit à côté des moissonneurs, et Boaz lui offrit des épis grillés. Elle en mangea à satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs, « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes, sans la rabrouer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis des javelles, et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches. » Bon, c'est vraiment clair, net et précis. Boaz veut qu'on ait de la sollicitude pour cette personne. Boaz veut qu'on aide cette personne. Indirectement, il sait qu'il va aider quelqu'un de sa famille. Donc, c'est un homme bon, c'est un homme généreux, qui vient de changer le statut d'une personne et qui se rend compte un petit peu de tout le travail que fait Ruth et il veut donner un coup de main supplémentaire. Ainsi, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge, un épha. Elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi après qu'elle se fût rassasiée et lui les donna. Donc elle partage, en quelque sorte, le repas de midi avec sa belle-mère. Elle dit, tiens, Noémie, un cadeau de Boaz. Mange. Noémie reconnut la main de Dieu. Sa belle-mère lui demanda, mais où est-ce que tu es donc allé glaner aujourd'hui? Parce que c'est étonnant quand même, tu vois. Ruth va partir, la Nocrie va y aller, la Moabite, je t'explique pas l'accueil. Hein. C'est, si elle ne se prend pas des pierres, des coups de bâton, ça va déjà être bien. Puis non, elle revient avec les mains chargées. Un épha, ce qui donne une grande quantité de grains. Et donc, on est étonné. Je dis, attends, explique-moi voir un peu comment ça se fait que tu reviennes avec une telle quantité de grains. Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. Alors Ruth raconta sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Il l'apprit, il s'appelait Boaz. Noémie dit à sa belle-fille, que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il a été envers ceux qui sont morts. Puis elle ajouta, cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. L'un rentre dans une nouvelle loi, qui est encore très importante. Et comme je l'ai dit avant, le statut de Ruth ayant changé, qu'elle passait du statut de Nocrie à celui de Gère, à partir de maintenant, les lois de l'Éternel s'appliquent à elle. Donc Noémie fait remarquer que la personne chez qui elle est allée, c'est pas quelqu'un d'anodin, hein, c'est pas un voisin, c'est quelqu'un de la famille. Et qui a une particularité en Israël. Cet homme est notre proche parent, c'est l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. On appelle ça le droit de rachat. C'est-à-dire, il y a une loi qui existe, et cette loi, l'Éternel l'a instaurée, afin qu'on ne reste pas pauvre ad vitam aeternam dans le pays. La loi du rachat. Si pour une raison financière, quelqu'un était obligé pour vivre ou survivre de vendre sa terre, c'est le plus proche parent qui a l'obligation d'acheter, non pour lui-même, mais pour celui qui est démuni, la terre qui a été obligé de vendre. La terre ne se vendra pas à titre définitif. Ça, on trouve en Lévitique 25, 23. L'Éternel dit, le pays m'appartient. Et vous êtes chez moi des immigrés, vous êtes des gères, et des résidents temporaires. Dans tout le pays qui est votre propriété, vous accorderez un droit de rédemption pour la terre. Si ton frère devient pauvre et doit vendre une portion de sa propriété, son rédempteur, son parent proche, pourra venir reprendre ce que son frère a vendu. L'Éternel demande ça. L'Éternel. Et si tu as les moyens, si tu peux, et si ton frère a dû vendre sa terre, parce que vraiment, il était trop pauvre, que toi, tu en as la possibilité, eh bien, la personne qui a acheté ce terrain doit te la revendre à toi, qui est le rédempteur, afin que tu puisses la restituer à ton frère, afin que tu puisses la restituer à ton parrain. et qu'il puisse vivre, et qu'il ne soit pas dépouillé de son bien, qu'il ne soit pas déshérité de son bien. Et pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'il considère tous les Israélites comme des gers. Ils ne sont que installés ici parce que le Seigneur l'a voulu, c'est son pays. C'est leur statut, le statut de l'Israélite, en fait, c'est le statut d'un gère. Si le Seigneur le désire, si c'est sa volonté, eh bien, il ordonnera que son peuple sorte de ce pays. C'est d'ailleurs ce qui va arriver avec les Juifs, hein, puisqu'ils se détourneront de l'Éternel, le Seigneur les fera sortir du pays, il les emmènera dans un autre pays, puis les ramènera, puis ils repartiront de nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils disent, maintenant ça suffit, j'en ai assez, ils les dispersent au milieu des nations, ils ne reviendront plus du tout pendant 2000 ans. Donc c'est vraiment ce statut. Ils ont un statut d'immigré. Il ne faut jamais que les Juifs l'oublient, ils ont un statut d'immigré. Et c'est ce statut qu'a reçu Ruth. Ce statut que lui a permis d'acquérir Boaz. À partir de maintenant, elle, l'immigrée, devient l'immigrée au milieu des immigrés. Là, avec le même statut, les mêmes lois, les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et donc, l'Éternel, parmi toutes ces lois, avait donc permis que si quelqu'un, un jour, perd tout, qu'il peut tout récupérer. Le Rédempteur peut venir et peut racheter sa dette et rétablir de nouveau cette personne dans son bien. Et donc ça, Noémie, elle en était consciente, hein, je connaissais bien la loi de l'Éternel, c'est dit, mais attends, voilà, il t'a rétabli dans ton statut, à partir de maintenant, tu n'es plus une Moabite, mais tu es une chair, c'est-à-dire comme nous, finalement, hein, nous, les Juifs, tu es assimilé au peuple, et bien tu as droit, au même droit que tous les autres. Tu as droit maintenant d'être sous la protection du Seigneur et de ses lois. Et qu'est-ce que dit cette loi? Que pose un droit de rédemption. Cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. Noémie s'appuie sur la loi que je viens de vous lire avant, le droit du rachat. Alors Ruth, la Moabite, reprit. Il m'a même dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. Noémie lui répondit, c'est bien ma fille, continue d'aller avec ses servants. Ainsi, tu ne risqueras pas de te faire maltraiter dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servants de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, puis de celle des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Donc là, tout le temps du décompte de l'Homère, Ruth va glaner dans les champs. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit baler l'orge amassée dans l'air. Lave-toi donc et parfume-toi. Puis, mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds, et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. » Qu'est-ce qui vient maintenant de traverser l'esprit de Noémie? Encore une loi de l'Éternel. Quelque chose qui se rajoute au droit de rachat. Et là, nous sommes maintenant dans une autre loi, qui est la loi du Lévira. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette loi-là, on la trouve dans Deutéronome 25, 5. On va voir un peu le principe de cette loi et son objectif. Lorsque des frères habitent ensemble, si l'un demeure sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger. Son beau-frère ira vers elle. Il la prendra pour femme et remplira envers elle son devoir de beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde portera le nom de son frère défunt, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera la porte vers les anciens et dira, « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, « Je ne veux pas la prendre Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. » Donc voilà, une nouvelle loi. L'obligation de relever le nom d'un défunt. C'est important en Israël. Si un nom s'efface, si un nom disparaît, c'est comme si cette personne n'avait jamais existé, c'est comme si cette personne ne faisait pas partie du peuple de Dieu, que Dieu ne le connaissait pas. Donc, l'Éternel oublie à cela. Il a dit, si un décès devait survenir, que le frère prenne la succession, afin que ce nom ne disparaisse pas et qu'il ait une descendance. Donc là, on est dans le symbole, là, on est dans le souvenir, afin que le nom de cette personne ne disparaisse pas. C'est extrêmement important. Là, on est dans le cadre du moral et du spirituel, parce que, quand on est en Israël, d'une manière ou une autre, à quelque part, on est toujours attaché par son nom au Seigneur. Et donc, si le nom qu'on porte avait un jour été effacé, c'est un petit peu comme si on était retranché devant la face de l'Éternel. C'est comme si le Seigneur nous avait oublié. Et c'est très difficile dans une famille de devoir avouer qu'un parent, un jour, a existé, il est mort, et puis personne ne se souvient de lui, on ne sait pas qui c'est, parce qu'il n'y a pas eu de descendance, personne n'était là pour relever son nom, personne n'était là pour raconter ce qu'il a fait, personne n'est là pour qu'on se souvienne de lui. Et donc, Noémie s'appuie maintenant sur quelque chose de neuf, s'appuie sur cette loi-là, et dit, écoute, j'ai perdu mon mari, Boaz, c'est ta proche parent, s'il te prend, toi, pour femme, il relèvera le nom de mon époux. Et le nom de mon époux ne s'éteindra pas. L'Éternel est roi. Ce nom-là ne s'éteindra pas. Donc, il lui explique ce qu'elle doit faire. Et elle l'envoie auprès de Boaz dans l'espoir qu'il étende sa bienveillance sur cette femme et qu'il le fasse entrer dans sa famille. Donc, c'est quelque part, Noémie va forcer le destin de Ruth. On va voir comment les choses vont se passer. Noémie envoie donc Ruth, et Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Elle descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Boaz mangea et but, et fut très content. Puis, il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement. Elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu as droit de rachat. » Bon, le vrai terme, c'est « Étends sur moi ton aile, car tu as droit de rachat. » Elle demande sur elle l'application de deux lois. La loi du Lévirat a le droit du rachat. Maintenant, pour comprendre un peu ce qui se passe, là, c'est très policé, en fait. Ruth va quand même relativement loin dans sa démarche. C'est certains termes qui sont employés, et pour comprendre un peu ce qui se passe en lisant entre les lignes. La symbolique de la couverture des pieds. Quand quelqu'un se dénude, on ne va pas dire « il se déshabille, il est tout nu ». Ça ne fonctionne pas comme ça. On a des termes pour ça. Dans Juges 3:24, par exemple, on peut lire ça. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. La traduction de se couvre les pieds, c'est, ils se dirent, il est sans doute en train de satisfaire un besoin naturel dans la chambre fraîche. Donc là, on comprend que le texte contient certaines ambiguïtés, mais on peut se dire que Ruth met tous ses avantages de son côté, qu'elle se présente à lui de telle manière qu'elle puisse le séduire, de telle manière à ce qu'elle éveille le désir de Boaz, et que Boaz ait envie de la prendre pour femme. Quand on dit « il lui découvre les pieds », bien des représentations artistiques figurent alors Ruth aux pieds de Boaz, dans l'attitude d'une humble servante. Hein, on peut s'imaginer ça, oh, petite Ruth se met aux pieds de Boaz. Bah, c'est un petit peu plus engagé que ça. Dénuder les pieds, hein, la couverture des pieds, bah, ça veut dire, on peut comprendre, elle se dénude et se présente à lui. On retrouve un petit peu ce texte d'une manière développée, puisque l'idée de Ruth, dans cette étude, c'est de la rapprocher de l'épouse de Christ, c'est l'épouse qui vient des nations, et puis qui est assimilée au peuple de Dieu. Et on trouve en Ézéchiel un texte qui parle de Jérusalem. En 16:8, on peut lire ceci, l'Éternel parle de Jérusalem comme d'une femme à épouser et à protéger. « Je passais près de toi, et je te regardais. C'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon vêtement. Je couvris ta nudité et je fis un serment. Je contractai une alliance avec toi. Déclaration du Seigneur l'Éternel, et ainsi tu m'appartins. Si un homme prend une femme pour épouse, pour signifier cet acte, pour montrer à tout le monde qu'il l'accepte comme épouse, pour montrer à la femme qu'il la prend sous sa protection et qu'elle rentre dans sa famille et qu'à partir de maintenant, elle lui appartient, il écarte son manteau, il la recouvre de ce manteau, il couvre sa nudité, il met par-dessus la femme et ce geste symbolique est associé à un mariage. L'homme qui fait ça, il déclare à la femme qui est en face de lui, « Je te prends comme épouse. » Et donc, Ruth se présente devant Boaz, qui se réveille, et d'un seul coup, il voit cette femme. Au début, c'est pas qui c'est, il est surpris, il dit « Mais qui tu es ?» Et puis, Ruth lui répond « Je suis ta servante. Prends-moi sous ta protection. Étends ton bras. Prends-moi sous ton aile. Prends-moi comme femme. Car en tant que proche parent, tu as droit de rachat. Deux choses. Tu as un devoir vis-à-vis de moi, mais prends-moi pour femme. » Boaz immédiatement comprend tout ce qui se passe. Immédiatement, il sait de quoi il en retourne. Il est parfaitement au courant de toutes ses habitudes et de toutes ses lois. Et c'est à ce moment-là que tout se joue. C'est un peu un coup de poker. Ou tu gagnes, ou tu perds. Boaz, qui l'a élevé dans un statut, Boaz qui l'a fait passer de Nocri à Gère, si à ce moment-là, il la repousse, ou si à ce moment-là, il la considère simplement comme étant une femme avec qui il peut passer la nuit et que si après, il la renvoie, elle va dégringoler de son statut. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera la femme souillée, ça sera la femme qui s'est présentée comme une prostituée, et les prostituées perdent leur statut de femme d'Israël, puisqu'en Israël, une femme n'avait pas le droit de se prostituer. Donc, si à ce moment-là, les choses ne se passent pas comme elles devraient l'être, c'est-à-dire telles qu'elles sont inscrites dans la loi de l'Éternel, pour Ruth, les choses s'achèvent. Tout est fini. À partir de maintenant, celui qui l'a élevé peut aussi la rabaisser. Et la rabaisser, ça veut dire qu'elle n'aura plus sa place dans le pays. Il faudra qu'elle reparte de nouveau, parce que personne ne la considérera. Réaction de Boaz. Que l'Éternel te bénisse, ma fille. Parce que Boaz était beaucoup plus âgé que Ruth. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. Parce que là, elle se donne totalement. Elle ne regarde pas à l'homme, elle ne regarde pas à son âge. Il y a tout ce qu'il y a derrière. C'est un engagement total et complet. Elle ne vient pas pour le plaisir, elle ne vient pas uniquement pour satisfaire un désir sexuel, mais elle est là pour s'engager à fond vis-à-vis de sa belle-mère et vis-à-vis de l'Éternel. J'ai un statut. Tu m'as dit toi-même qu'à partir de maintenant, je suis assimilé au peuple. Tu m'as élevé au statut de Gère. Je suis maintenant comme n'importe quel Israélite, je réclame les mêmes droits. Comme l'Éternel me le permet, rachète-moi, réponds à ton obligation, fais de moi ta femme. Et Boaz y voit ça, il se dit, mais cette belle jeune femme qui vient chez moi, mais c'est incroyable, c'est un dévouement total et complet. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches, certainement qu'elle était très belle, elle aurait pu choisir qui elle voulait. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la fin de la nuit, et demain matin, nous verrons si cet homme peut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Puis elle se leva au petit jour, afin que l'on puisse se reconnaître, car Bose avait dit, il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. Avant qu'elle parte, il lui dit, donne la carte que tu portes, tiens-la bien. Elle la tâta ainsi, et y versa 25 litres d'orge, et l'aida à les charger sur elle. Puis elle rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda, « Comment les choses se sont-elles passées, ma fille ?» Alors, Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta, « Il m'a même donné ses 25 litres d'orge, car il m'a dit, « Tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. » Noémie lui dit, « Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » Donc là, on voit qu'on a des gens de caractère. Noémie et Boaz, vraiment, font partie de la même famille, parce que chacun sait exactement ce qu'il veut. Et Noémie savait que si Boaz engageait sa parole, eh bien, qu'il tiendrait sa parole. Noémie a forcé le destin, et ça a marché. À partir de maintenant, quelle que soit l'issue, d'une manière ou d'une autre, sa belle-fille, Ruth, aura un mari. Et pour elle, ça veut dire que son avenir s'éclaircit, qu'elle ne vivra plus dans la pauvreté, qu'elle aura un protecteur, qu'elle aura quelqu'un qui veillera sur elle. C'est aussi, à quelque part, l'objectif de Noémie. Noémie s'est dit, je ne serai pas là éternellement, il faudra bien que cette pauvre fille, un jour ou l'autre, trouve un mari. Parce que si elle reste toute seule, elle sera toujours, une fois que moi je ne serai plus là, ce qui risque d'arriver, c'est qu'elle se retrouve de nouveau dans un statut de nocri, qu'on la considère du bois comme la voix habite et qu'on la chasse. Il faut absolument qu'on consolide le statut que Boaz lui a donné. Et donc, la meilleure manière de le faire, c'est encore de la marier. Et a fortiori, si c'est un peu la marier avec Boaz, ça sera parfait. Et déjà, on se rend compte que Boaz s'était beaucoup attaché déjà à cette femme-là. Puisque avant que le jour se lève, pour qu'elle ne soit pas déshonorée, pour qu'on ne médise pas sur sa personne, elle dit, écoute, tu disparais. Parce que si jamais ils se rendent compte que tu es venu la nuit, les gens qui sont ici, ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, ça y est, elle est venue pour coucher avec moi. C'est une femme légère, de mœurs légères, elle est venue pour séduire Boaz. Voilà, on retrouve de nouveau les Moabites là, qui sont venus séduire les Israélites. Hein, je vous l'avais bien dit, on aurait des problèmes avec cette bonne femme. Elle n'aurait jamais dû venir. L'Éternel nous a prévenus, l'Éternel nous l'avait dit qu'il ne faut pas avoir des contacts avec ces gens-là. Hein, déjà comme ça, du temps de Moïse, les filles venaient, elles séduisaient les enfants d'Israël et ça finissait toujours mal. Là, ça recommence. Moabite, elle arrive, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Peine, elle arrive, on est gentil avec elle et on profite pour coucher avec le maître. Et pour éviter ça, avant que les gens se réveillent, quand il faisait encore nuit, il lui a dit, écoute, pars, parce que les gens ne comprendront pas. Moi, je comprends ce que tu as fait. Moi, je comprends que ta démarche s'inscrit dans une démarche de sainteté, parce que tu n'es pas venu ici pour répondre à une pulsion, mais tu es venu ici pour servir. Tu es venu ici pour servir ta belle-mère. Tu es venu ici pour servir le Seigneur. Parce que tu t'inscris totalement et complètement dans la loi de l'Éternel. Ce que toi, tu veux, tu veux un époux. Ce que toi tu veux, c'est le droit de rachat. Mais parce que tu me l'amènes comme ça, parce que tu me demandes de cette manière, je répondrai à cette attente. Le lendemain, Boaz se rendit à la porte de la ville et y prit place. Tout se passe à la porte hein, en Israël. C'est-à-dire les discussions, les jugements, toutes ces choses-là se passent à la porte de la ville. Donc là, les personnes les plus importantes se réunissent. Quand le plus proche parent dont il avait parlé, et qui avait le devoir de s'occuper de Ruth, vint à passer, Boaz lui dit, « Un tel, viens donc t'asseoir ici. » L'homme s'approcha et s'assit. Boaz fit approcher 10 hommes parmi les responsables de la ville, et leur demanda de s'asseoir avec eux. lorsque ce furent installés, s'adressa ainsi aux plus proches parents. Noémie, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Élimélec, notre parent. Je pensais t'en informer, et te proposer de le racheter par devant les habitants de la ville et les responsables de mon peuple ici présent. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi, que je le sache, car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat, et je viens directement après toi. L'homme lui répondit, oui, je veux bien le racheter. Lui, il a dû se dire, entends, je vais racheter ce champ, Noémie est trop vieille, elle ne pourra pas s'en occuper, je vais faire une bonne affaire avec cette histoire. Je veux dire, je vais la racheter pour elle, et puis tant qu'elle vivra, c'est moi qui vais travailler dans le champ, et je vais partager le revenu avec elle. Somme toute, ça va être une bonne affaire. C'est une très bonne affaire, même. Quand même savoir qu'acheter un champ en Israël n'est pas une chose aisée. Hein. Tu peux seulement le faire dans des cas très particuliers, puisque la loi interdisait de vendre un champ comme ça, parce que c'est comme si tu vendais ta part d'héritage. L'Éternel a bien verrouillé les choses de telle sorte que un homme qui s'enrichit ne peut pas acheter comme ça tout le pays. Donc quand une fois une opportunité se présente, vous pensez bien qu'on saute dessus et puis on la loupe pas. Donc l'homme tout de suite, ouh là là, pas de problème, je rachète. L'idée est quand même quelque part hein, d'aider la personne sur laquelle, parce qu'on est l'homme qui rachète, c'est un goël, hein, c'est un, et ça si on traduit, c'est un rédempteur, c'est celui qui sauve, c'est celui qui aide. Mais cet homme-là, c'est sûr et certain qu'il ne rachète pas ce champ-là pour aider. Il achète ce champ-là premièrement pour lui-même, et naturellement, il devra donner une contrepartie à Noémie, mais il cherchera à en tirer un profit, et il compte faire coup double, c'est-à-dire gagner un peu d'argent sur le champ, et en plus se faire bien valoir auprès de la communauté en disant, vous voyez, c'est moi qui ai aidé la pauvre Noémie. Donc il dit, moi je rachète, pas de problème. Bon, je poursuis. Bon, très bien, tu vas racheter, c'est parfait. Mais, si tu acquittes le champ de la main de Noémie, tu prendras pour femme Ruth, la Moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Voilà. Alors, dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne veux pas racheter mon compte, car je ferai tant à mon propre patrimoine pour que ce qu'il dit ça. Alors, attends, mais tu te rends compte que tu me demandes, boss, mais tu m'en fous, moi je veux bien racheter à Noémie, c'est une Israélite, hein, c'est une proche parente, hein, c'était peut-être une tante ou que sais-je. C'est une Israélite, c'est quelqu'un qui fait partie de notre peuple, on la connaît, ça fait maintenant des siècles que nos familles cohabitent et tout, et puis, mais la Moabite, tu es fou, tu te rends compte, Seigneur, il nous dit qu'il faut nous en tenir éloignés, qu'on n'a pas le droit de les fréquenter, qu'ils sont frappés de malédiction, mais rappelle-toi donc ce qui s'est passé avec le mari de Noémie, hein, et a fortiori avec ses fils, hein. Je peux quand même te rappeler, Boz, que le mari de Ruth est mort, hein, que son père est mort. Et pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce que la malédiction de l'Éternel les a frappés. Et toi, tu veux que je fasse rentrer dans mon patrimoine un champ comme ça et prendre cette femme? Mais c'est sûr et certain que je vais détruire tout mon patrimoine, tout ce qui m'appartient, puisque l'Éternel va me frapper de malédiction et que je vais mourir. Je suis hors de question. Ah, le champ, oui, la femme, non, en aucun cas. Ah, je ne vais pas être déshonoré, je ne vais pas me retrouver avec la Moabite sur le dos, et puis la malédiction de l'Éternel. Tous les gens vont me regarder de travers, tous les gens vont me mépriser, c'est hors de question. Je ferai tort à mon propre patrimoine. Donc lui, il ne considère pas que Ruth puisse l'enrichir de quelque manière que ce soit. C'est sûr et certain qu'elle lui prend du poids. Reprenons à ton compte ton droit de rachat, car je ne puis en profiter moi-même. Donc là, c'est clair, net et précis. Ce qui intéresse cet homme, c'est de profiter pour lui-même. Ce qui intéresse cet homme, c'est de ne pas faire de tort à son patrimoine. Donc là, c'est clairement la richesse qui l'intéresse. C'est clairement le bien matériel. Ce qu'il lui veut, c'est s'enrichir. S'enrichir, oui, mais prendre la Moabite, non. Autrefois en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi l'homme, qui avait le droit de rachat, dit à Bose, acquiert le champ, et il retira sa sandale. Alors Bose déclara aux responsables, à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et à Mahlon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Mahlon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Alors, tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent « Oui, nous en sommes témoins. » Maintenant, on ne peut pas s'empêcher quand même, au-delà des traditions et au-delà des coutumes, de faire la comparaison entre le geste que vient de faire cet homme d'enlever sa chaussure et de la donner à Mose en lui disant « J'en veux pas, ceci en témoigne pour moi » avec la loi du Lévirat. Si un homme refusait de marier une parente pour relever le nom du défunt, cette femme avait le droit de lui cracher son mépris au visage. Là, d'une certaine manière, parce que ce que cet homme vient de faire, il vient de cracher son mépris au visage de Ruth. Il dit, non, c'est moi qui j'en veux pas. Tiens, je te donne un sandal qui est, selon la coutume de notre pays, le fait que je te cède le droit sur les biens du défunt. À partir de maintenant, c'est toi qui prends le relais. Mais il y a quand même une superposition dans le geste. Il y a une superposition dans la symbolique. On se rend bien compte que le Seigneur lui-même répond au mépris de cet homme qui cherchait à s'enrichir. Il enlève sa chaussure, signe de mépris. Il dit, tiens, prends-la, moi, vite. Et comment est-ce qu'on voit que le Seigneur lui-même méprise cet homme-là? Il n'y a rien qui vous titille, rien qui vous saute aux yeux. À aucun moment, son nom n'apparaît. Nous sommes ici dans une situation qui exige que le nom d'une personne soit relevé. Parce que c'est la loi de l'Éternel, l'Éternel le veut. Quelque part, ceci signifie qu'on est assimilé à la famille de Dieu, que Dieu le reconnaît comme son enfant et qu'il vivra à perpétuité. Rappelez-vous qu'il y a des livres qui sont ouverts dans le livre de vie et que dans ce livre de vie, des noms peuvent être effacés. Et bien là, cette personne n'apparaît pas. Cette personne ne répond pas à la loi de l'Éternel. Cette personne ne suit pas les commandements du Seigneur. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'enrichissement. Mais même son nom a été effacé du livre de la Bible. On ne sait pas qui c'est, mais on ne saura jamais qui c'est. Son souvenir a disparu. Par contre, Bose, son nom à jamais restera gravé dans la mémoire des hommes. Et que dit le peuple après que Bose ait déclaré devant tout le monde qu'il voulait relever la descendance du défunt? Oui, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa. Qu'elles deux ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Pérès, le fils que Tamar a donné à Judas. Là, on fait la comparaison avec une situation qui était à peu de choses près identique. Il y avait aussi là une loi du Lévirat qui n'a pas été respectée et où une femme a dû forcer le destin pour que cette loi s'applique. Donc là, on souligne bien le trait. Je pense que là, à ce moment-là, le peuple prophétise. Là, ce n'est pas le peuple qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu, qui a inspiré ces hommes. Parce que le fait de rappeler ce qui s'est passé du temps de Judas, c'est-à-dire les enfants de Jacob, c'est souligner une situation identique qui s'était passée des siècles précédemment et qui aujourd'hui se reproduit. Eh bien, l'Esprit de l'Éternel inspire ces hommes pour acquiescer, pour dire « Je suis d'accord, ma bénédiction descend maintenant sur cette famille, ma bénédiction descend sur ce couple que j'ai agréé. » Et pour bien montrer que la bénédiction de l'Éternel repose sur cette famille, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de ruine qui suit derrière, comme ce qui s'était passé avec Élimélec lorsqu'il était allé à Moab. Maintenant, nous sommes à Bethléem. Nous sommes à la source. Nous sommes à la maison du pain. Et on se rend compte que tout ici se passe dans la période de la moisson. Ça commence à Pâques Et ça va jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est-à-dire, au terme des moissons, nous sommes où ? Au terme des moissons, nous sommes à Shavuot. Donc, nous avons passé toute cette période avec eux. Nous l'avons accompagnée, nous avons vu comment cette femme a grandi dans son statut et comment à la fin elle devient l'épouse. L'épouse pour relever un nom, et pas n'importe quel nom. Le nom qu'elle relève, c'est l'Éternel est roi. C'est ce nom qui est relevé. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours. Puisque c'est ta belle-fille qui t'aime et qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que sept fils. » Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Et les voisines s'écrièrent, « Noémie a eu un fils. » Et lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Donc là, on peut vraiment dire que le nom du défunt a été relevé. Obed, ça veut dire serviteur, mais serviteur de qui ? C'est pas serviteur des hommes, c'est serviteur de l'Éternel. Il sert l'Éternel. Et le nom qu'il a relevé, le nom qu'il porte en lui, qui est en germe dans sa personne, qui l'accompagne avec lui de génération en génération, c'est l'Éternel des rois. C'est ce nom qui a été relevé. Et de cette lignée, de cette génération, va sortir le plus grand roi d'Israël. De cette lignée sortira le roi David. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que celle-là. Et au-delà du roi David, il y en a une plus grande encore qui va venir, celle du Machia. Et son trône à lui, et sa gouvernance et sa royauté ne s'arrêtera jamais. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Nous avons donc là une image symbolique qui est extrêmement forte. Nous avons une femme issue des nations, sur laquelle repose la malédiction, qui sort de ce pays pour adopter un nouveau Dieu, pour adopter de nouvelles coutumes. Elle est totalement et complètement intégrée à cette nation. Cette nation, c'est Israël. Ruth, la Moabite, change de statut. Ça devient une Israélite. Elle épouse un Israélite et de leur union, elle va naître un roi. Plus grand roi d'Israël qui lui-même sera l'aïeul du Machia. Donc là, nous avons vraiment une image qu'on peut projeter dans le futur. Parce que les choses du passé sont l'ombre de celles à venir. Mais vraiment, Ruth, c'est l'image de l'épouse qui est tirée des nations. C'est celle qui est appelé à intégrer le giron de la famille divine. C'est le Seigneur qui dit, venez à moi, même si vous n'êtes pas connu de ceux de votre peuple, même si vous venez d'un pays qui adore les dieux étrangers, même si l'opprobre repose sur vous, même si la malédiction repose sur vous, si vous venez vers moi, par fidélité et par amour, ma loi vous sauvera. Ma loi vous affranchira des liens qui vous lient à la malédiction, des liens qui vous lient aux dieux étrangers, aux liens qui vous lient aux chaînes et à l'opprobre. Non. Moi, l'Éternel, je suis plus grand que ça. La loi dit ceci, mais la loi dit aussi qu'elle peut vous sauver. La loi peut vous condamner, mais la loi peut aussi vous sauver. Et finalement, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que la loi de l'amour, la loi de la fidélité, eh bien, si on la suit en marchant dans les pas du Seigneur, les plus grandes bénédictions reposent sur nous. L'épouse de Christ, l'épouse des nations, si elle marche dans les voies de l'Éternel, si elle suit les voies de l'Éternel, son destin, c'est de porter la couronne. Son destin, c'est de s'asseoir sur le trône avec le Seigneur. Son destin, c'est d'être assimilé au peuple de l'Éternel. Ce faisant, il n'y aura plus de peuple, il n'y aura plus de nation, il n'y aura plus Israël, il n'y aura plus le reste du monde. Il n'y aura plus qu'un seul peuple, un seul corps, avec un seul esprit. Pourquoi ? Parce que le statut de ceux qui sont dans le monde change à partir du moment où ils adoptent les lois de l'Éternel et s'ils suivent ses recommandations et s'ils marchent dans ses pas. Et s'ils font comme ça, s'ils suivent ses recommandations, s'ils sont fidèles et si l'Éternel les prend sous son aile,
son esprit les recouvre, son esprit rentre en eux et ils ne font plus qu'un. C'est un mariage. C'est ce qu'on voit avec le cheminement de Ruth. Cheminement de Ruth, c'est, on part, on arrive à Pâques, on suit le temps du glanage, on est dans le décompte de l'Homère, on arrive au terme de la moisson, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est le moment du rachat. C'est le moment où on est libéré de la pauvreté, c'est le moment où on sort du deuil, c'est le moment où on est rétabli de nouveau. On acquiert un statut nouveau. Là, c'est carrément, Ruth devient une épouse légitime, elle fait partie intégrante maintenant de la famille des Hébreux. Elle a un statut. C'est exactement comme si elle arrivait au jubilé. Qu'est-ce qui se passe au jubilé? Au jubilé, toutes les dettes sont effacées. Et le jubilé n'a lieu que à Shavuot. Le jubilé n'a lieu qu'à la Pentecôte. C'est à la Pentecôte que l'Éternel fait grâce de toutes les dettes. C'est à ce moment-là que chacun est rétabli de nouveau dans son héritage. Ben, c'est aussi pour ça que, à la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur les fidèles, sur les 120 qui sont dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que à la Pentecôte, eh ben, c'est un temps, c'est un jour de fête qu'on peut assimiler au jubilé. Au jubilé, toutes les fautes sont pardonnées. Et les fautes peuvent être pardonnées. Pourquoi? Mais parce que l'épouse est fidèle. L'épouse marche dans les pas de l'époux. Autrement dit, tous ceux qui étaient dans la chambre haute, c'était ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, leurs fautes sont pardonnées. Et à partir du moment où leurs fautes sont pardonnées, eh ben, ils sont considérés justes par l'Éternel, ils sont considérés saints par l'Éternel, et là, l'Esprit Saint peut descendre en eux, peut habiter en eux, et ils deviennent le temple de l'Éternel. L'épouse est couverte par l'époux. C'est comme si le Seigneur étendait son aile, étendait son manteau sur l'épouse. C'est le signe de l'appartenance de l'épouse à l'époux. La personne qui est remplie par le Saint-Esprit, sur laquelle repose l'Esprit de Dieu, c'est comme si elle était unie au Seigneur, c'est comme si elle était mariée au Seigneur, elle peut revendiquer le statut d'épouse. Et à partir du moment où elle peut revendiquer ce statut, comme Ruth, elle peut relever le nom de l'épouse, c'est-à-dire l'Éternel est roi. Et ça, cette caractéristique, eh bien, nous la retrouvons tout à la fin de la Bible. Dans Apocalypse 12, apparaît l'épouse. L'épouse est montrée et est présentée au monde entier. Et qu'est-ce qu'on peut lire? Je vis un signe grandiose apparaître dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient les cris. Ça veut dire quoi? Cette épouse, l'épouse de Christ, est couverte, a été couverte par le Seigneur. Et elle est enceinte, c'est-à-dire elle a été unie à lui. L'Esprit de Dieu produit son effet. Et elle va accoucher. Mais elle va accoucher de quoi? Elle enfanta un fils, un garçon, qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. L'Éternel est roi. L'Éternel a relevé son propre nom au travers de l'épouse de Christ. C'est la royauté même de l'Éternel qui s'établit sur terre. C'est ça l'enseignement de Ruth. Ruth, en relevant un nom, a établi la royauté. L'épouse légitime au sein des nations qui est recouverte et qui est sous l'aile du Seigneur, qui porte en elle son esprit, est reine, et ce faisant, elle établit la royauté de l'Éternel. L'Éternel est roi. Et s'il peut acquérir ce statut, c'est au travers de l'épouse. Voilà l'enseignement de Ruth. Et voilà pourquoi le Seigneur a inscrit ce petit passage tout à fait anachronique dans Lévitique, où on parle du glanage au milieu de tous les rituels qu'on doit satisfaire pendant les fêtes de l'Éternel. Et c'est là qu'on se rend compte que ce passage n'a rien d'anachronique, mais qu'il a parfaitement sa place, qu'il s'intègre parfaitement dans le texte, parce qu'à la Pentecôte, parce qu'à Shavuot, la royauté de l'Éternel est rétablie au travers de l'épouse légitime qui marche vers son époux. C'est ça
par de Pâques, on avance, on arrive à la fin de la moisson, à la fin du glanage, et c'est là que l'union se fait. C'est ça le message spirituel qui est dans la parole de Dieu. Donc on remet ça au Seigneur, mon Dieu. Voilà le message de Ruth. Voilà ce qu'on peut en dire, certainement beaucoup d'autres choses, on peut encore développer, mais mon Dieu, que par ton esprit, tu puisses pénétrer en chacun et que chacun reçoive sa part, la part de ton esprit. En ton nom, Yeshua, accompagne chacun.